plein d'Ili avec Evelyne de la Chenelière.
Bonjour à tous et à toutes, ici Gali Bonin, éditeur société au Daily, le seul journal francophone de McGill. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire qu'on vous doit dans un premier temps une explication et dans un deuxième temps une excuse. Cette entrevue-là n'était pas censée être un balado à la base. On avait mené cette entrevue dans le cadre de notre enquête sur les effets de la pandémie sur les milieux culturels à Montréal et on pensait simplement prendre quelques citations pour les intégrer à des articles. Sauf qu'en réécoutant l'enregistrement, on trouvait que le propos se portait mieux au balado puisqu'il y avait vraiment eu une discussion qui avait eu lieu avec Evelyne de la Chenelière, alors on s'est dit pourquoi pas. Et maintenant, nos excuses. Comme c'était pas censé être un balado à la base, l'enregistrement est vraiment pas idéal. On entend plusieurs interférences, ça a été enregistré sur mon téléphone. À plusieurs moments, je cherche mes mots ou bafouille mes questions. Mais enfin bref, on trouvait que si le propos était intéressant, alors le balado le serait aussi. Et c'était aussi la meilleure occasion qu'on pouvait avoir pour faire le premier balado du Daily, le seul journal francophone de McGill. Et sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bon, alors on est avec Evelyne de la Chenelière. Ça va bien, Eve?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va bien, merci. Donc voilà, comme je t'ai dit, au Daily, on fait cette étude, cette enquête sur les effets de la pandémie et du confinement sur la culture à Montréal. Et je me demandais comment est-ce que au quotidien le confinement est venu affecter tes activités.
Ben alors très très concrètement, il a interrompu, il a suspendu presque l'ensemble de mes activités puisque quand la crise est vraiment tombée, la fermeture des théâtres, etc. J'étais à un mois de présenter un spectacle comme comédienne, donc j'étais en répétition. J'étais à quelques jours de lancer un album auquel j'avais participé. J'étais à quelques semaines de faire des voyages à l'étranger qui ont été suspendus. Donc ça a vraiment transformé mon horizon. Et puis, ça m'a soudainement aussi beaucoup isolée, évidemment, puisque tous les processus dont je parle étaient des processus de création collective. Donc, c'est ce qui s'est passé très concrètement. Mon quotidien est devenu suspendu.
Ouais, ça a tout mis sur la glace d'un coup, en fait.
Ouais,
Est-ce que tes projets à long terme, est-ce qu'ils ont été mis en suspension ou il y en a qui vont tomber ou comment est-ce que tu vois le cheminement de tes projets maintenant?
Les projets à long terme qui étaient donc de l'ordre de l'écriture sont maintenus. Ça se peut qu'ils soient reportés ou changés dans les dates de présentation qui étaient prévues parce que tout a un impact. Il y a un effet domino dans les suspensions
mais
des théâtres.
Mais oui.
Je dois surtout, apprivoiser le fait que les choses sont incertaines, sont imprécises et ne m'appartiennent pas, puisque moi, je suis vraiment le cas de figure où je n'ai pas de compagnie, je dirige pas de théâtre, donc je suis vraiment tributaire de décisions qui appartiennent aux institutions ou aux organismes pour lesquels je crée. Mm-hmm. Mais j'ai ce grand privilège et plus qu'un privilège, c'est un moteur qui fait que au bout du compte, je sais que mon travail verra le jour, peut-être pas quand je l'avais prévu ou comme je l'avais prévu, mais ultimement, mon travail verra le jour, sera partagé.
Ça va tout de même aboutir.
Ouais.
Est-ce que tu as fait des versions 2.0 pour justement transformer des projets puis les continuer malgré la pandémie?
Non.
Donc, tu as décidé d'attendre ou de...
J'ai décidé d'attendre. J'avais vraiment besoin. J'ai jamais, comment dire, pris. Ça représente pas pour moi une position qui est anti-numérique ou une position que je souhaite, comment dire. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais je ne me reconnais ni dans une espèce de réactivité, oui, une sorte de, oui, de réactivité qui fait qu'on est parfois amené à justement à réagir vite aux événements, à se prononcer vite, à apparaître vite. Et c'est pas mon tempérament. Je crois, cela dit, que ça m'a fait réfléchir à, parce qu'on va souvent, comment dire, mettre en avant le lien avec le public, le contact, le liant qui doit ne pas être interrompu, d'où cet encouragement à investir les plateformes numériques. Je trouve que ça pose la belle question du liant et du contact. Qu'en est-il? Qu'est-il? Et que devient-il?
Oui, puis aussi la question de parfois même la dévalorisation de ton art de manière monétaire ou autre. Je parlais avec un gérant d'artiste, là, de rappeur l'autre jour, puis il me disait, moi, c'est pas vrai que moi et mes gars, on veut pas faire des shows sur le web. Puisqu'après, tu fais un show à 12 et 25, puis là, ben, bon, t'as vu l'out dans ton salon à 12 et 25, pourquoi tu paierais 70$ pour aller le voir au Centre Bell, tu comprends? Et donc, évidemment, à peu près tout le monde à qui je parle, ils me sortent pas cette excuse-là, mais cette mention-là du lien, du contact, du direct, quoi, puis de la scène. Mais en même temps, il y a plein de gens, c'est sûr et certain, qui eux se disent, mais si dans le confort de mon salon, je peux avoir ce que j'ai debout quelque part dans une salle, je vais le prendre dans le confort de mon salon. Et donc, des fois, sans s'en rendre compte, on se met en danger ou
Je comprends, à long terme,
à long terme, hein.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
C'est ça.
Mais c'est dur comment dire, Mettons justement, quand on parle des arts vivants, tous les gens de spectacle ou d'arts vivants sont convaincus que l'expérience du rassemblement fait partie de l'objet qu'ils proposent. Sinon, on ne serait pas. Voilà. Mais après, est-ce que dans cette période-là, il y a des gens qui ont vraiment eu le sentiment d'interrompre une trop grande solitude ou un trop grand vide culturel par ces formes qui étaient proposées numériques, sûrement aussi. Cela dit, c'est quand même assez insidieux parce que, ultimement, ce qui. Comment dire? Ce qui est encouragé là-dedans, c'est une sorte de cadence qui ne doit jamais, jamais se ralentir.
Ça a été ou quoi, ouais.
Oui, et pourquoi ça fait si peur de ralentir? Pourquoi, comme artiste, je ne vais pas parler pour les autres, mais c'est ce que je ressens, c'est la lecture que j'en fais. Pourquoi beaucoup d'artistes ont l'impression de ne pas exister s'ils n'apparaissent pas? S'ils ne sont pas dans le partage de leur art, alors que il me semble qu'ultimement, oui, l'art est fait pour partager, mais ultimement, il faudrait qu'on parvienne à se sentir extrêmement vivant dans la lente préparation de.
Puis, ouais, puis dans le. Oui, dans la lente préparation, puis moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect qui est le jeu. Hein, c'est que des fois, on dirait que. Puis bon, dans le milieu du hip-hop, là, qui est plus comme mon créneau, c'est the game, genre, we're playing the game, tu vois. Puis
Ah oui.
there's players in the game, puis on. Mais donc, les gens deviennent féroces, tu sais, parce qu'on joue tous au même jeu, puis il peut y avoir plusieurs gagnants, le point est pas là, mais mais les gens, ils vont justement sortir des choses à un rythme effréné pour qu'on se rappelle d'eux. Les artistes de la relève vont comme sortir dans les bars avec les artistes déjà établis, vont essayer d'avoir le plus de shows possible à tous les soirs, à tous les jours, vont devoir rester actifs. Et donc là, ce manque-là, là, ce vide qui se crée de contact, puis de réseautage, puis de vie artistique du jeu ou du milieu en soi, ben là, il se fait remplacer par quoi, tu sais?
Ouais.
L'artiste de la relève qui est en train de se faire un nom, il a peur de perdre sa place en un sens. Et donc,
ouais,
il va se convertir vers le web ou vers le tu sais, vers son Instagram, vers son TikTok, vers son whatever, Twitter, dépendamment d'où il vient, de quel milieu il vient. Mais
uh-huh.
Moi, je remarque ça beaucoup par rapport à ça.
Ouais. Ça, je peux comprendre aussi. Ben, je trouve ça intéressant que tu abordes ça parce qu'il y a quelque chose aussi à distinguer, je trouve, entre... J'ai beaucoup pensé ces derniers mois aux artistes justement de la relève, aux finissants des écoles de théâtre, des écoles de cirque, des écoles des musiciens, des chanteurs. Je peux comprendre cette urgence à offrir quelque chose quand on n'a pas de bagage de création derrière soi, c'est encore autre chose. Puis c'est vrai que j'appartiens à une génération qui où on a déjà une sorte de on a des travaux qui précèdent cette crise là qui résonnent encore quelque part, même si c'est un peu insondable, mais qui fait qu'on est peut-être... C'est peut-être plus facile de résister au sentiment d'urgence dans ma position, par exemple, que dans celle d'une toute jeune compagnie qui s'apprêtait à présenter son premier spectacle.
Voilà, oui, c'est ça. J'imagine aussi. Puis c'est là, c'est des différentes positions dans le champ social, si on veut. Là. C'est très... C'est très bourdieusien, là. Ça, je tiens ça d'Alain Farah, là. C'est lui qui m'a...
C'est bon.
m'a inculqué ça. Est-ce que tu as l'impression que les mesures gouvernementales ont été suffisantes pour soutenir le milieu culturel?
Ah, c'est une question... J'ai beaucoup de mal à voir clair dans tout ça parce que... Mais comme je te le disais, comme j'ai pas de compagnie ni de théâtre, j'ai de la difficulté à mesurer les besoins des organismes, des institutions. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu, je sais pas si ça c'est un peu... je crois qu'il y a eu un chemin qui a été fait, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'incompréhension dans les réels besoins. Je parlais du théâtre, là, et les aides proposées ou apportées. Cela dit, ce qui m'a marqué comme artiste individu, c'est tous ces programmes qui sont donc de l'argent versé pour soutenir des projets.
Des projets en particulier. Là, on ne parle pas de la PCU. Des projets.
Non. Là, je parle des programmes de culture, du calque ou du calque.
C'est quoi les programmes, pardon? Juste.
Il y a toutes sortes de programmes où tu peux appliquer comme individu.
Mm-hmm.
Le message, là, c'était: vous avez des idées, vous voulez créer, on va vous soutenir, on est là, vous appliquez, vous faites une demande de recherche, création, production, numérique, pas numérique, mais... Et puis... on va répondre à ça.
On est là pour vous, quoi.
Oui. Mais là où c'est très incomplet, puis encore une fois aussi un peu insidieux, c'est que ça s'adresse essentiellement à l'artiste entrepreneur. C'est pas tous les artistes qui sont, qui sont des créateurs initiateurs de projets.
Mm-hmm.
Je crois que tous les artistes sont créateurs quelque part, même ceux qui sont seulement interprètes, ils sont créateurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les outils ou le désir de soumettre un projet. Et ils auront besoin quand même de survivre.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est un calcul qui encore une fois, encourage à vitement comprendre les appels à projets qui sont proposés. Il y a toutes sortes de catégories qui demandent une certaine habileté pour articuler une demande de subvention, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mm-hmm. Et qui aussi, je crois, nourrissent ce sentiment de ben, qui est propre au capitalisme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que l'individu capable, l'entrepreneur, va survivre.
Oui, non, c'est vrai.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que Dan me dit la même chose tantôt sur justement sur cette idée de l'urgence, tu sais, sur cette idée de performativité en fait. Faut faire des projets, faut faire plus de projets, faut aller chercher de l'argent, faut aller chercher plus d'argent. Il faut monter 1, 2, 3, 4 choses si on est capable. Tu sais, c'est comme cette idée de toujours aller de manière un peu vorace, aller chercher plus. C'est ça qui. Puis on dirait qu'on encourage un peu ça. Tu sais, c'est avec les bourses dont tu me parles ou le financement dont tu me parles, c'est faire des projets, puis. Mais comme justement l'idée de l'entrepreneuriat, quoi, l'idée des jeunes leaders ou de quoi que ce soit, je ne sais pas comment ils appellent ça.
Oui, après, bon, il peut y avoir des répercussions pour d'autres artistes dans le sens où, par exemple, si un jeune metteur en scène soumet un projet, il peut éventuellement engager d'autres gens. Je suis consciente qu'il y a aussi un rayonnement à ça.
Oui.
Mais faut faire attention parce qu'aussi... je ne sais pas, moi, par exemple, si tout le monde reçoit de l'argent pour les projets, si au moins, à cause de la crise et de l'urgence de la situation, si au moins de regards, par exemple, de comités d'évaluation qui évaluent la qualité des projets, qui les mettent en comparaison, qui en choisissent, si ça devient vraiment presque unanimement accordé, les bourses... Il y aura une saturation aussi de projets. Après, quel lieu de diffusion seront là pour les absorber s'il s'agit du théâtre, par exemple, pour les présenter?
Quelle plateforme? Comment?
Oui, quand? Je veux dire, on va être rendu en 2030. Mais c'est compliqué. Cela dit, très humblement, on me dirait, oui, mais qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi? Je suis consciente que où je me situe, je ne connais pas assez les dossiers puis les choses pour avoir même l'imagination de me figurer de quelle manière faudrait fonctionner là.
Ouais.
C'est ça met en lumière aussi une réalité qui est là depuis toujours, depuis bien avant COVID et bien avant ma naissance, c'est le principe du monde des arts et des lettres où c'est complètement injuste parce que c'est pas vrai qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est pas vrai que c'est chacun son tour, c'est pas vrai que... Et ça le sera jamais. Alors ça...
Et souvent, justement, c'est des circonstances. Des fois, c'est un concours de circonstances qui fait que un projet ou un autre va être privilégié dans une situation ou une autre. C'est... Il y a ça aussi,
ben oui.
le hasard ben oui. de tout ça qui, comme tu le dis, justement, fait que... Mais non, c'est ça, il n'y a pas de la place pour tout le monde, puis il n'y a pas... C'est injuste, mais c'est comme ça, quoi. C'est...
Ben oui, parce que c'est pas... Il faudrait pas que ce soit juste non plus. Je suis pas en train de dire ça parce que ça aurait pas de sens. Mais si on regarde.
En un sens, ça voudrait dire que bon, tout s'équivaut, tu sais. Puis.
Exactement.
Puis ça, c'est. Mais ça, c'est un grand dilemme. Des fois, j'ai l'impression de l'espèce de. Ah ben. Tu sais, comme. Tout s'équivaut parce que tu peux défendre une opinion comme une autre et donc toutes les opinions sont bonnes. Puis là, t'es comme, attends, y a quelqu'un on me la coule douce ou on me la glisse en douce. Là, je sais pas comment dire. Anguille sous roche ou quelque chose. Là. Fait que... Non, c'est vrai, c'est... il y a quelque chose de d'étrange, mais justement dans cette optique-là, j'ai l'impression que la pandémie vient vraiment remettre la place de l'art, remettre en question la place de l'art dans la société. Donc le rôle que l'art joue, le rapport qu'entretiennent les individus à l'art, les artistes à l'art, le public à l'art.
Ouais.
Tu sais, c'est quoi sa nécessité, c'est quoi sa place dans nos priorités en termes de société et tout.
Oh, ouais.
Je me demandais, je sais que c'est un peu philosophique, puis je lance ça comme ça un peu rapidement, mais est-ce que tu as une piste de réflexion par rapport à justement cette... Qu'est-ce que va être le rapport à l'art qu'on va développer ou comment est-ce qu'on s'enligne peut-être avec la crise en ce moment?
J'ai l'impression que les gens auront vécu un manque un manque au niveau de ce qu'offre l'art comme comme expérience, comme déplacement, comme bouleversement du regard, comme tout et comme parole aussi qui laisse un peu infuser beaucoup de choses avant de surgir. Contrairement à toutes les plateformes qui sont les tribunes de la spontanéité. Pour moi, l'art, c'est un peu l'inverse de la spontanéité. Pardon. Donc, peut-être que je suis trop optimiste, mais je le vois comme une sorte de renouvellement de vœux entre l'art et son public qui est à venir. Enfin, je l'espère. Pour ne pas concevoir l'art ou la littérature comme étant des luxes ou du superflu, des fois, il faut en vivre le manque, puis peut-être que ça va être le cas pour plusieurs pour une grande partie de la population.
Ouais.
Je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça aussi, je sais pas, mais... Ouais.
Moi, je t'avoue que je penche peut-être plus de ton côté. Quoi. Il y a plusieurs... Comme, à tout le monde à qui on parle, on a des opinions complètement divergentes par rapport à ça. Puis moi, je t'avoue que je tends un peu là, dans ton sens à dire que le fait qu'il y ait un vide, le fait qu'il y ait un manque, ça nous réalise, ça nous fait réaliser qu'il y avait quelque chose qui le comblait avant, tu sais. Puis que là, ben, on n'y a pas accès, on n'y a pas... C'est fou, mais c'est ça, c'est aussi niaiseux que... Aller voir un show dans un bar d'un groupe que tu connais pas trop, puis le découvrir pour une première fois, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, je vais juste regarder leur vidéoclip sur YouTube maintenant. C'est comme, tu sais, c'est... Puis je suis assez d'accord avec toi, en fait, par rapport à tout ça.
Ben, espérons-le.
Espérons-le, ouais, en effet. Qu'est-ce que le public peut faire, selon toi, pour continuer à soutenir les milieux culturels en ce moment?
Ben c'est sûr que là, on parle de réouverture progressive, d'événements publics. J'espère que les gens iront, même si on sait que l'expérience va être un peu altérée à cause des mesures de distanciation qui doivent être respectées. Mais je crois que d'être au rendez-vous, c'est la plus belle preuve d'amour, si j'ose dire, qu'on peut recevoir d'un public.
Ouais. Ben, Eve, il me reste juste une question.
Oui.
C'est une question qui est assez personnelle, là, tu vas voir. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis le début du confinement?
Là, tu parles comme pas nécessairement au niveau artistique.
Ben non, tu peux. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. C'est qu'est-ce qui te manque le plus au fond?
Toucher les gens.
Ouais.
Ouais. Je me rends compte que c'est vraiment comment dire. Ouais, c'est vraiment essentiel. Je crois que c'est au-delà de la parole puis du sens. Je crois que comme c'est pas pour rien que j'ai choisi un métier où on se touche. Mon rapport à l'autre passe beaucoup par ça, que ce soit l'affection que je donne à mes enfants qui vivent chez nous, mm-hmm. à mes amis, mais même dans une forme de communication avec l'autre, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je vois pas le jour où on va se sentir en sécurité de le faire.
Ouais, ça semble vraiment lointain, en fait.
Ouais.
Le toucher.
Mais ça peut avoir l'air banal, mais c'est vraiment ça qui manque le plus.
Ben ouais, mais je comprends tout à fait, honnêtement. Là, je pense que je peux tout à fait voir et concevoir, d'ailleurs. Ben écoute, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Merci, Eve.
Hey, merci à toi.
Et non, c'est pas votre téléphone qui vient de planter, cette entrevue était vraiment pas censée être un balado à la base. Mais on est vraiment content d'avoir réussi à en faire un avec, et on se dit à la prochaine pour un délit français et audio.